effectivement, pour les journalistes, les jeunes reporters qui se voient confier des commandes de reportage, il y a une espèce d'équation très compliquée à résoudre. Surtout quand on voit comment ils préparent leur reportage, on voit à quel point il y a tout un travail en amont qui va consister à sélectionner des quartiers où il est plus facile d'aller qu'ailleurs. On se rend compte, par exemple, qu'ils vont aller beaucoup dans le Val-de-Marne et dans l'Essonne. Alors, et là encore, pour des raisons très pratiques, qui sont que, France 2, c'est dans le 15e arrondissement à Paris. On va privilégier, pour une raison purement géographique, certains quartiers comme la Grande Bande, par exemple, à Grigny. Et puis l'autre raison pour laquelle on va choisir certains quartiers du Val-de-Marne ou de l'Essonne, c'est parce que sur place, les reporters ont noué des contacts avec ce qu'on appelle des intermédiaires, des facilitateurs un peu de la production de ces reportages. Donc c'est souvent des éducateurs, mais ça peut aussi être des élus, des responsables associatifs, qui sont devenus un peu des professionnels de l'accompagnement de journalistes en banlieue, et qui donc en amont vont déjà prévenir les habitants que des reporters vont venir, essayer de repérer les habitants qui vont être prêts à répondre aux questions et surtout de sélectionner des habitants qui vont coller à la commande de reportage qui a été formulée en conférence de rédaction. Et parce qu'en fait, on se rend compte, quand on travaille sur la médiatisation des quartiers populaires, qu'on a en fait un peu une galerie de portraits très récurrente sur les quartiers populaires. On va voir l'imam, l'éducateur, le jeune en survêtement adossé à la tour d'immeuble, la jeune fille qui a réussi et qui essaie de s'en sortir.
Les barres d'immeuble.
Alors, les barres d'immeuble, effectivement, au-delà de la sélection, du casting, c'est des mots qu'on entend. Dans les salles de rédaction, on dit qu'il faut caster des personnages. Alors, quand on va peu dans les quartiers populaires, on a effectivement l'impression que toute la Seine-Saint-Denis, ce sont d'immenses tours, de très grandes barres, des voitures calcinées un peu aux quatre coins de rue.
Des femmes voilées qui passent.
Des femmes voilées, beaucoup, oui. Et en fait, quand on y va, on se rend compte que l'habitat est beaucoup plus divers, qu'on a des endroits avec des grandes pelouses, etc. Et en fait, une partie du travail journalistique consiste justement à choisir dans ce paysage urbain finalement assez hétérogène des endroits du quartier qui vont correspondre à cette imagerie des banlieues qu'on voit dans les reportages. Et ensuite, on a tout le travail du caméraman, du journaliste reporter d'image qui va consister à faire des travelling, à faire des plans en plongée, en contre-plongée, à zoomer sur des paraboles, des tours d'immeubles pour amasser en fait toute une série de matériaux, que ce soit à travers des interviews ou des images, et pour pouvoir recomposer ensuite au montage cette commande qui a été formulée en amont. Donc il faut bien se dire que quand des reporters, souvent d'ailleurs très jeunes, vont dans un quartier populaire, ils sont pas dans l'idée de produire un reportage raciste, ils sont même pas quelque part dans l'idée de produire un reportage sur les quartiers populaires. Ils viennent remplir une commande qui consiste à illustrer le communautarisme en banlieue, et leur capacité à se conformer aux commandes, à respecter la commande, va déterminer ensuite leur mobilité dans la rédaction, c'est-à-dire le fait qu'ils vont pouvoir se voir attribuer des sujets de plus en plus prestigieux et intégrer des services plus prestigieux, et évidemment avec tout ça, passer du CDD ou de la pige au CDI, l'intégration, etc. Donc il faut bien comprendre que le problème qui se pose au reporter qui va dans les quartiers populaires, c'est pas de produire un reportage raciste ou pas, c'est pas une question d'idéologie qui est derrière tout ça, en tout cas au niveau des reporters. C'est très important de dire ça. C'est simplement de bien faire son travail. Et en fait, quand on est plongé dans un univers professionnel pétri de normes très puissantes et dictées par des rédacteurs en chef, qui souvent viennent de l'audiovisuel privé, c'est la particularité de France 2 aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la hiérarchie, des rédacteurs en chef, etc., a fait tout ou partie de sa carrière dans l'audiovisuel privé, et donc importe des modèles de production auxquels des reporters du service public sont contraints de se soumettre, et par la pratique, par la reproduction successive de reportages, finalement vont faire siennes ces définitions. C'est par la socialisation professionnelle qu'on a ces reportages et ces stéréotypes sur les quartiers populaires qui peuvent se reproduire.
Non, tout le temps la télé à la radio, t'entends dire que les jeunes sont des voyous, toujours à la recherche d'un mauvais coup.
C'est showtime, chaque jour font plat une claque. Et s'ils ont rien d'important sous la dent, une goutte de sang, ils en font une flaque.
On se sent pas dans la sécurité.
Avant on se coupe, afin que l'auditeur s'approche.
On doit être heureux.
Ouais, le fond, s'en faut au fond, faut vendre l'info. C'est clair, faut faire mouiller le lecteur.
Faut pas se promener comme on veut, tranquillement.
Le pire, c'est qu'on répète ce que répète le mec à William. Que peut-être qu'il lui a mis au fond, enfin.
Les mêmes mots qui reviennent.
De toute façon, maintenant l'info, ils te la font tous façon fashion. De façon qu'un retime, pas some action. Ça parle de gang, bien de trafic, des camps trucs à jeunes. Y'a une embrouille, t'as craché le vice.
Dans la ville, deux zones de sécurité prioritaires ont été créées.
On nous diabolise tous. entretenant les phobies et allant jusqu'à foutre des fausses barbes à des mecs de